Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Ce soir, les journalistes sont-ils prisonniers de la ligne éditoriale ? Il aura tenu un an à la tête du nouveau magazine littéraire. Raphaël Glucksmann cède sa place à Nicolas Domenac. Un départ pour incompatibilité politique avec le propriétaire du journal Claude Perdriel. Selon Raphaël Glucksmann, ses prises de position hostiles au président Macron auront eu raison de son poste. Alors la question de l'indépendance des journalistes est souvent posée, à juste titre au regard des liens des médias qui les emploient avec les puissances de l'argent. Mais que dire des liens idéologiques ? Travailler dans un média d'opinion ne réduit-il pas forcément leur espace de liberté ? Il y a un an, le manifeste pour un nouveau média citoyen, acte de naissance de la web télé, le média promettait de rompre avec la marchandisation de l'information en proposant un média pluraliste. Mais comment concilier ce pluralisme quand on se revendique de la gauche radicale ? Quelle marge de manœuvre pour les journalistes ? Ces questions, elles vont se poser à Frédéric Taddeï, car c'est la surprise de la rentrée télé. L'ancien présentateur de Ce soir ou jamais rejoint la chaîne russe RT France pour une émission de débat. Stupeur, ne vient-il pas de vendre son âme au diable ? Car ce média est accusé de faire de la propagande davantage que de l'information. Alors les journalistes sont-ils prisonniers de la ligne éditoriale ? C'est le titre de cette émission, titre peut-être à revoir, je ne suis pas tout à fait satisfait de sa formulation, ça arrive de temps en temps, on verra peut-être qu'à la fin de l'émission, on trouvera la bonne question à poser pour le podcast. Je précise que nous sommes de retour au Bel Air et qu'elle est elle aussi de retour dans le club, il s'agit d'Anne Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes depuis quelques semaines la présidente du Média qui va faire sa rentrée d'ici quelques jours, c'est bien ça ?
Le 16 septembre, de programme, oui, hein, le dimanche 7 septembre, nous commençons par un grand live. Et puis, c'est la reprise des programmes le lundi 17.
Voilà, et puis je rappelle un de vos ouvrages que vous avez publié aux éditions de Les Liens qui Libèrent sur le système médiatique, justement. Ça s'appelait La pensée en otage. Une nouvelle venue dans le club, comme la semaine dernière, Géraldine Mühlmann, cette semaine. C'est Laetitia Stroche-Bonnard. Bonsoir.
Bonsoir.
Essayiste, journaliste, chroniqueuse pour le magazine Le Point, votre dernier livre chez Fayard. Les hommes sont-ils obsolètes ? A priori, pas de rapport direct, en tout cas, avec l'émission de ce soir, mais enfin, on verra bien. Puis, j'en parlais dans la présentation de l'émission, c'est notre invité cette semaine au club, Frédéric Taddeï. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, vous avez présenté pendant plusieurs années sur France Télévisions Ce soir ou jamais. Vous êtes sur Europe 1 en cette rentrée comme l'an dernier, mais pour une nouvelle émission qui a lieu le dimanche matin. Et vous rejoignez donc RT France. RT, c'est le nom, on connaît aussi Russia Today, l'autre nom, version française de la télé publique russe, pour une émission quotidienne interdite d'interdire qui commence quand, elle aussi ?
Fin septembre.
Indépendance. État de quelqu'un qui juge, décide, agit en toute impartialité, sans se laisser influencer par ses appartenances politiques, par des pressions extérieures, ou par ses intérêts propres.
Quand vous prenez la plupart des médias, la presse écrite et l'audiovisuel, en bout de ramification, vous avez 9 personnes, 9 milliardaires.
Aujourd'hui, les nouveaux chiens de garde, c'est qui ? Les nouveaux chiens de garde, ce sont les journalistes vedettes, les stars de l'animation, les experts de l'expertise, qui sont omniprésents aujourd'hui dans l'espace médiatique et qui formatent le débat public aujourd'hui en France.
Bonjour, Raquel Garrido pour Les Terriens du Dimanche sur C8. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, j'ai lu dans...
Alors, Raquel Garrido, C8, propriétaire de l'oligarque des oligarques, Vincent Bolloré, c'est-à-dire qu'elle accepte l'argent de Vincent Bolloré pour participer à l'émission de C8. Vous vous rendez compte un petit peu ?
Il y a des émissions qui sont homogène sur le plan idéologique, c'est le cas de Quotidien, je suis désolé de le dire, c'est pas du tout une attaque, mais non, mais ça n'est pas du tout.
On est des bobos gauchos,
c'est pas pour être désagréable.
Macron, c'est pas du tout ce nouveau monde, ce souffle nouveau qui permettrait de régénérer la démocratie. La manière dont il traite les journalistes montre qu'il ne veut pas de dialogue, c'est une promesse d'aube qui en fait cache de plus en plus mal un crépuscule.
Voilà, alors c'est justement cette petite phrase qui n'a pas du tout plu aux collaborateurs du président. Et selon Glucksmann, l'Élysée aura envoyé plusieurs SMS à son patron pour se plaindre et demander sa tête.
Voilà, le regard de notre réalisateur Alexandre Fougeron sur le sujet du soir. Vous aurez entendu notamment Adrien Quatennens de la France Insoumise, Charles Consigny à Quotidien, puis Raphaël Glucksmann. On vous propose chaque semaine justement ce petit regard sonore, mais... Pour commencer la discussion, si vous le voulez bien, on va privilégier notre invité, Frédéric Taddeï. Quand je vous ai posé la question, ça reprend quand ? Il dit fin septembre, mais vous n'aviez pas l'air tout à fait sûr de la date.
Vous pensez que je vais être arrêté avant ?
Non, je ne sais pas.
Non, c'est simplement que le décor est un peu en retard, c'est tout.
D'accord. C'est quoi l'émission alors ? Vous allez faire Interdit d'interdire ?
C'est un talk show intitulé Interdit d'interdire, dans lequel c'est une émission culturelle, une émission de débat, comme j'aime en animer à la télévision, dans lequel j'aurai carte blanche pour inviter qui je veux, traiter des sujets que je veux. Carte blanche que j'ai demandé, comme je l'ai toujours demandé. Hein. Je l'ai demandé aussi à Jean-Pierre Cabage quand il m'a recruté pour Europe 1 il y a de nombreuses années maintenant, à Patrice Duhamel quand je suis arrivé pour présenter Ce soir ou jamais. C'est toujours mieux de faire ça dès le début. Ici même, quand je suis venu sur France Culture pendant 2 ans, j'ai dit, est-ce que je peux inviter tout le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas de liste noire ? On m'a dit non, il n'y a pas de liste noire. Voilà, à partir de ce moment-là, j'accepte.
C'était vraiment la condition sine qua non pour que vous acceptiez. Quelque chose de très banal finalement dans la façon dont vous en parlez, alors que vous savez très bien que ça provoque quand même un certain nombre d'interrogations, sachant la réputation qu'a RT France, réputation qui est aussi alimentée par un certain nombre de procédures. Enfin, le CSA.
Oui, considérer. Enfin, c'est une réputation, si vous voulez. On sait très bien comment naissent les réputations. Ouais. On lui a fait une très mauvaise réputation. Voilà, je suis comme Brassens, ça m'attire plutôt, vous voyez.
Est-ce que ça vous attire plutôt, finalement, justement, ce genre de défi que, dans lequel se lance Frédéric Taddeï de Lancelin ?
Alors...
vous avez appris qu'il allait faire une émission quotidienne sur RT France, vous avez dit...
Ça, je peux vous dire que ça ne m'a pas échappé. J'ai évidemment pensé, comme beaucoup de gens, que c'était un symptôme extrêmement fort de la crise du monde des médias. Si Frédéric Taddeï, qui a longtemps animé la meilleure émission culturelle et intellectuelle sur la télévision publique française, en est rendu... sur les écrans d'une chaîne financée par l'État russe pour conserver cette liberté, tous les démocrates que nous sommes ne peuvent que se sentir extrêmement concernés par cet événement. Moi, je ne porterai pas de jugement sur le choix de Frédéric, qui est un homme libre. Simplement, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation, je pense. C'est-à-dire que Frédéric Taddeï est l'animateur de talk. Moi, je suis journaliste. Pour un journaliste, ça n'a pas le même sens d'aller sur une chaîne qui se revendique ouvertement d'une proximité avec un gouvernement étranger. Voyez, parmi, si vous voulez, les trois dangers qui pèsent sur l'exercice de sur l'indépendance journalistique, il y a la proximité avec l'État. Il y a l'influence des puissances étrangères, justement, et il y a évidemment les puissances industrielles, voilà.
Mais c'est-à-dire quoi, que quand on est animateur de débat, on n'est pas soumis à cette question de l'indépendance journalistique ?
Disons qu'il
c'est pas du journalisme.
Il est certain... ça dépend de la façon dont on le conçoit. Je vais laisser Frédéric parler pour lui. Mais je pense que ça autorise, ça simplifie une position de recul et de dandisme par rapport à la chaîne sur laquelle vous travaillez.
Je comprends ce qu'elle veut dire. Quand vous animez des débats, vous invitez tout le monde, vous ne tranchez pas. Si j'étais journaliste de terrain, si j'enquêtais, si à la fin je disais ce qu'est la vérité, en tout cas ce que moi, journaliste, je pense être la vérité, ce serait très différent. Moi, je ne tranche pas entre toutes les vérités qui s'affrontent dans les émissions que j'anime. D'autre part,
mais ça n'empêche pas d'être journaliste. Bah, pardon de parler de moi-même, mais moi qui anime aussi une émission de débat,
ça n'empêche pas,
et je me sens quand même très journaliste.
Ça ne m'empêche pas d'être journaliste, vous avez raison, mais ma position n'est pas la même. J'invite tout le monde. Et pour prendre les trois exemples que vient de donner Aude Lancelin. J'ai travaillé pour une chaîne proche de l'État en France. Ça s'appelle la télévision française, France Télévisions plus exactement. J'ai fait des émissions où on disait beaucoup de mal du gouvernement, quel que soit ce gouvernement. Je travaille sur Europe 1 pour le groupe Lagardère. Ça nous a jamais empêché de traiter aucun sujet et je vais être sur RT France. Et quand il y aura des débats sur la Russie, j'inviterai des pro-Poutine, ce que tout le monde ne fait pas d'ailleurs dans toutes les émissions, mais ce que je faisais dans Ce soir ou jamais ou sur Europe 1. Et j'inviterai aussi des anti-Poutine qui auront donc tout loisir de s'exprimer librement sur RT.
Alors, je précise quand même bien que cette émission n'est pas pour essayer de savoir si Frédéric Tabéhi a eu raison ou pas d'accepter d'aller sur.
Non, mais c'est pour répondre à votre question. Être proche de l'État français, être financé par un État étranger, comme disait Lancelin, ou appartenir à un groupe qui appartient à ceux qu'on décrit comme les 9 milliardaires qui ont tous les médias, et faire les mêmes émissions.
Alors, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, la nature, on va dire, l'identité du propriétaire du groupe pour lequel vous travaillez, du groupe de presse, Laetitia Strauss-Bonnard. En l'occurrence, vous, le point, il s'agit de François Pinault. Est-ce que ça n'a pas d'incidence sur ce que vous allez produire? Sauf à considérer qu'on vous choisit, vous, parce que vous êtes justement peut-être dans la ligne éditoriale du média.
Alors justement, vous répondez un peu à ma place. Pardon. Parce que alors déjà, il faut dissocier l'actionnariat de la ligne éditoriale, parce qu'il y a, ça n'est pas un fil direct. Et ensuite, la ligne éditoriale d'une rédaction ne descend pas non plus comme un ordre direct de la rédaction vers les journalistes. On sait bien qu'on travaille quand même tous ensemble. Je ne veux pas du tout être angélique ici et dire que l'actionnariat ou la ligne éditoriale n'a aucun impact sur les choses qu'on fait, les choses qu'on écrit, les sujets qu'on choisit de traiter. Et on sait tous... On connaît des cas limites, d'ailleurs, et même des cas, je voulais raconter le cas d'un assez qui a fait pas mal de bruit en Grande-Bretagne, d'un grand journaliste qui s'appelle Peter O'Born, qui a démissionné avec fracas du Daily Telegraph il y a quelques années parce qu'il faisait une enquête sur HSBC, la banque, et qu'on lui a demandé d'arrêter de faire son enquête. Il a quitté le journal et ça a été un vrai scandale. Donc c'est très mauvais pour la presse, ça, parce que ça montre, ça jette, disons, une ombre sur la qualité de ce qu'elle peut produire. Ceci étant dit, je pense quand même que la ligne éditoriale joue un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que, comme journaliste, bien sûr, on s'intéresse aux faits. On est censé être honnête, on est censé enquêter, on est censé s'informer et mettre en perspective les faits, mais on a aussi des opinions et des sensibilités. Et c'est vrai qu'on est attiré par certains médias plutôt que par d'autres. On ne subit pas une ligne éditoriale, on y participe. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à voir ça, en tout cas, comme des relations directes, verticales, subies. C'est une circulation qui se joue.
Le fait que vous, par exemple, vous soyez présenté, alors j'ai regardé votre page Wikipédia, c'est toujours intéressant de voir comment les uns et les autres sont présentés. Vous êtes une des nouvelles figures de proue de la nouvelle vague conservatrice, Laetitia Strauss-Bonnard.
Je ne me décrirai pas comme ça, parce que je trouve ça un peu prétentieux, c'est vraiment trop de dire ça. Je ne sais d'ailleurs même pas si ça plairait au point. Parce qu'après, il y a des débats internes. Il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui estiment que Le Point est un journal libéral. D'autres vont dire que c'est un journal conservateur. Et à l'intérieur du Point, je ne sais même pas si tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, je ne sais même pas si, pour eux, au fond, eux-mêmes ne sont pas tout à fait sûrs de la ligne que je représente. Et moi non plus. Donc, c'est cette complexité aussi que je voulais traduire. C'est beaucoup plus compliqué qu'une ligne un peu type Pravda, si vous voulez.
Ces débats-là, vous les avez aussi aux médias, aux de Lancelin?
Des débats sur la ligne.
Ouais, des débats sur la ligne et sur la cohérence entre ce que pensent les gens qui y travaillent.
Il y a un relatif consensus au sein du média sur la ligne pour différentes raisons, parce qu'on n'est qu'une dizaine de journalistes à l'heure où on se parle. Les fractures idéologiques au milieu de 10 personnes, c'est un petit peu compliqué. Et nous sommes un jeune média, on a moins d'un an d'existence. Donc la cohérence des débuts est encore là à cet égard, si vous voulez.
Est-ce que cette cohérence-là, elle va aussi jusque dans le choix des invités? Il y a par exemple des émissions de débat qui vont reprendre sur le média. Est-ce qu'il y en a certains que vous vous interdisez de faire venir? Je ne sais pas, prenons par exemple, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous le rencontrez de temps en temps dans ce club des idées, Brice Couturier. Est-ce que Brice Couturier pourrait être invité, par exemple, au média?
Alors, Brice Couturier pourrait, en toute hypothèse, être invité sur le média. Non, dans les émissions de débat que j'anime sur le média, que nous animons, on a fait venir des gens comme Nicolas Bavrez, du Point, donc des économistes très libéraux. On a fait venir des députés La République En Marche, qui ont montré un certain courage en venant. Moi je suis à cet égard, pour ainsi dire, sur la même ligne que Frédéric Tabéhi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de discuter avec tout le monde, tout en sachant un petit peu où on veut emmener le débat, bien sûr, et quels sont les champs qu'on veut explorer.
ces évidences-là, c'est-à-dire on invite tout le monde, on invite très largement Frédéric Taddeï, est-ce que vous, vous êtes parfois retrouvé confronté justement à des résistances dans les médias au sein desquels vous, vous travaillez ou bien
jamais, absolument jamais.
Et ça tient à quoi, à votre avis?
Bah, tout simplement au fait que... D'abord, à deux choses. La première chose, c'est
Parce que si ça n'existait pas du tout, il devrait y avoir des débats pluralistes partout et vous n'auriez peut-être pas été conduit à aller chez RT France.
Qu'on avait demandé, c'était Libération qui avait demandé au numéro 2 de France Télévisions à l'époque, ça vous dérange pas que Frédéric Taddeï invite... Je sais plus quels étaient les noms, parce que ça dépend des gens. Hein. On vous reproche pas toujours les mêmes, ça dépend des opinions de chacun. Et il avait répondu, non, quand c'est lui, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en moi, tout simplement. J'ai toujours fait une émission en direct. Il n'y a jamais rien eu, jamais eu de problème, jamais eu de dérapage, comme on dit, les dérapages, c'est ce que c'est.
Il y a jamais non, je ne sais pas ce que c'est, moi.
Mais non, mais les dérapages, c'est le malentendu qu'un animateur laisse s'installer entre son invité et les gens qui regardent, parce qu'il n'écoutait pas ce qu'il disait, généralement, et il se rend compte juste le lendemain quand les autres l'épinglent. Moi, j'écoute ce que les gens disent, si jamais ils disent quelque chose qui me semble pouvoir choquer les téléspectateurs ou les auditeurs, je lui demande si j'ai bien entendu, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut dire, et si vraiment c'est ce qu'il veut dire, tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, il n'y a aucune raison que je m'élève contre, mais au moins les choses sont claires, si vous voulez, ça dépasse ce qu'on appelle un dérapage. Voilà, si ils ont confiance en vous, s'ils vous laissent faire une émission en direct, c'est qu'ils savent que vous êtes capable de gérer les antagonismes, les disputes. Il n'y a jamais eu de drame dans les émissions que j'anime, personne n'a jamais quitté le plateau, personne n'a jamais jeté de cendrier, voilà. Donc à partir de ce moment-là,
si je crois que dans une interview à Causeur, vous dites que Guy Bedos était parti.
Oui,
je crois
Guy Bedos était parti, mais il était parti parce qu'il n'y avait que des humoristes autour de lui. Il m'a dit, c'est pas pour rien que je fais des one-man shows. Mais il était parti en rigolant.
Ouais, dans ça.
Alors ça, c'est vrai que c'est un vieux désaccord que j'ai avec Frédéric Taddeï, hein, dont on a déjà parlé ensemble. Notamment quand tu es parti quand la quotidienne a été interrompue. C'était sous Sarkozy, si je ne
de ce soir ou jamais.
Oui.
Oui, c'est au changement de direction.
Et aussi. C'est Rémi Pfimelin qui a assez rapidement tranché, voilà, pour un passage de ce soir ou jamais en hebdomadaire. Et c'est vrai que c'était assez amusant parce qu'à l'époque tout le monde disait, mais il s'agit à l'évidence d'un geste politique. C'est vrai que ce soir ou jamais avait reçu des gens comme Emmanuel Todd, avait reçu des gens comme Badiou. Enfin, il y avait comment
des anti-Sarkozy.
Un certain raffut anti-sarkoziste quasi quotidien à certaines périodes qui faisait énormément de bien d'ailleurs pour traverser cette période et tout le monde pensait que c'était et Frédéric parcourait les rédactions en disant mais pas du tout et ça il fallait le défendre malgré lui. Or c'est une chose si vous voulez dont Frédéric Taddeï ne veut jamais vraiment en parler. C'est une chose qu'il nie.
Je ne suis pas paranoïaque.
Il me semble, et c'est déjà ce que tu disais à l'époque, mais il me semble néanmoins que la situation qui est la sienne aujourd'hui et le fait d'avoir petit à petit été acculé puis chassé des grandes ondes nationales est tout de même le symptôme de l'exclusion d'une parole différente dans les grands médias.
Aujourd'hui, oui.
Ouais. Laetitia Strojbonnard.
J'ai ressenti exactement la même chose en apprenant que vous quittiez France Télévisions, avec deux réactions immédiates. C'est-à-dire, premièrement, quid de la liberté d'expression, mais vraiment, c'est-à-dire faire parler tout le monde. Et on le sait bien que...
Il n'y a pas que Frédéric Taddeï qui défend la liberté d'expression, non. J'espère, quand même, dans les
bien
médias.
Bien sûr, mais justement, sinon, c'est un symptome. C'est un signe, et il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, dans le monde anglophone, que je suis particulièrement... on observe un phénomène assez inquiétant qui est qu'on ne veut plus inviter certaines personnes à certaines conférences. Certaines universités aussi décident de désinviter des personnes qu'elles ont invitées précédemment parce que ces personnes heurteraient la sensibilité des étudiants ou en l'occurrence des auditeurs. Je vais prendre un exemple tout récent. Le New Yorker fait une grande conférence pour la rentrée. Ils ont invité Steve Bannon. Beaucoup d'autres invités ont décidé de ne pas venir.
Alors Steve Bannon, il faut rappeler, conseiller...
Ex-conseiller de Donald Trump, figure du populisme, de l'extrême droite américaine, qui tente même de mettre un pied en Europe maintenant. Mais c'est quand même quelqu'un qui compte. Et surtout, il avait d'abord été invité. Et ensuite, face à l'esclandre, eh bien, le New Yorker a retiré son invitation, à comparer avec The Economist, autre média libéral, mais pour le coup, eux sont très cohérents. Ils ont invité Steve Bannon, pareil, pour leur conférence de rentrée, et ils ne l'ont pas désinvité. Ils ont dit il faut discuter avec tout le monde, parce que d'ailleurs, comme disait John Stuart Mill, il faut écouter toutes les opinions, parce que ça profite à toute l'humanité. Si elles sont fausses, on expose leur fausseté, et si elles sont vraies, eh bien, on s'enrichit tous.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater, Frédéric Taddeï, par rapport à certaines personnes que vous invitez dans des débats qui peuvent parfois vous dire « je veux bien venir, mais s'il y a telle personne, je ne viens pas ».
Oui, bien, qu'avec... ça s'est arrivé très souvent, mais je le respecte, ça. Je comprends qu'on n'ait pas envie de discuter avec tout le monde. Moi, il se trouve qu'en tant qu'animateur, et notamment du service public, je me sentais obligé d'inviter tout le monde, tout simplement, parce que c'est la télé publique et qu'il y a parmi les téléspectateurs toutes les sensibilités, hormis les opinions qui sont des délits et qui sont interdites par la loi, les autres ont parfaitement le droit d'être défendus. Ce qui est important, en revanche, c'est qu'il y ait toujours des contradicteurs en face, de la même force. J'aurais évidemment évité Steve Bannon dans Ce soir ou jamais, si cette émission existait encore. Mais j'aurais mis en face de Steve Bannon trois personnes de taille à le contredire, ce que j'ai toujours fait.
C'était
avec
le cas de New Yorker,
hein,
je n'ai pas précisé, mais il l'avait invité avec d'autres personnes.
Bien sûr, mais et évidemment qu'il faut inviter Steve Bannon, comme il faut inviter l'exact opposé de Steve Bannon. Mais toutes ces choses-là, plus personne ne les fait. C'est tout. En France, plus personne ne les fait. C'est tout. C'est comme ça.
Dans les propositions, par exemple, qui vous étaient faites, là, pour cette rentrée, il n'y en avait aucune qui vous aurait permis de faire ce que vous allez faire à RT France ?
Non, aucune. Non. Et à la télévision, hein. Je parle de la télévision. La télévision, non, aucune, bien entendu. Mais d'ailleurs, vous ne me faites pas l'effarer, vous le savez très bien. Tout le monde sait qu'à la télévision aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Enfin,
c'est notoriété publique. J'ai jamais fait de télé,
Vous rencontrez n'importe qui télé, donc. Maintenant, aujourd'hui, vous dites je ne regarde plus la télé. De toute façon, c'est la première chose qu'on vous dit. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de débat, parce qu'on nous prend pour des crétins, on nous prend pour des enfants.
Voilà. Laetitia Strojbonnard.
En même temps, c'est peut-être un mal pour un bien. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on voit un grand nombre de médias qui se développent grâce à Internet. Qui n'aurait pas pu exister il y a quelque temps.
Oui, alors.
Et pour terminer, moi, ce que j'observe aussi dans le paysage anglo-saxon, c'est le développement des podcasts et des chaînes YouTube. C'est fascinant et c'est passionnant. Et c'est des intellectuels, en fait, qui créent leur propre chaîne où ils interviewent d'autres personnes. Et il y a une diversité médiatique qui était inimaginable avant. Donc, on est peut-être au début d'autre chose.
C'est un mal pour un bien, Aude-Lancelin.
Non, je dirais pas ça, parce qu'effectivement, ça favorise les web télé comme la nôtre, ou tous les médias indépendants qui se lancent, mais on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et la même force de frappe. Entre une chaîne comme BFM qui arrose des millions de personnes et une chaîne à abonnement payant comme, je ne sais pas, là-bas, si j'y suis arrêté sur image qui concerne 20 000 personnes, vous n'êtes pas sur la même échelle de diffusion des pensées de gauche, des pensées indépendantes, des pensées libres.
Ce que décrivait Frédéric Taddeï, Aude-Lancelin, par rapport à cette difficulté, en tout cas, disons, à assurer un débat pluraliste à la télévision, en tout cas, que ce soit la télévision publique ou la télévision privée. Est-ce que vous feriez un parallèle avec ce que vous avez raconté dans votre précédent livre, qui était Le Monde Libre, dans lequel vous racontiez notamment les conditions de votre départ du Nouvel Observateur, de l'Obs?
Au-delà de mon cas, c'est un fait établi et désormais incontestable que 80% de l'espace médiatique est saturé par possédé par des grands groupes industriels qui tirent tous dans la même direction politiquement. C'est-à-dire qui, dans les moments où des mesures gouvernementales cruciales comme la destruction du code du travail, d'un seul coup oublient totalement leurs différentes nuances politiques pour se souder tous dans le même combat. Donc moi, évidemment, je suis pas là encore, c'est un vieux débat qu'on a eu avec Frédéric Taddeï. Je suis évidemment pas du tout sur cette ligne-là. Moi, je le dis, le fameux coup de fil des actionnaires n'est pas un mythe. Il existe. Il existe aussi sur la chaîne sur les chaînes publiques, même si apparemment Frédéric a un totem d'immunité. Mais moi, pour donner un exemple très concret, j'ai travaillé dans l'équipe de Franz-Olivier Gisbert pendant plusieurs années à Culture et Dépendance sur France 3, où c'était une émission de débat et où on recevait des gens parfois très sulfureux, très très polémiques. J'ai un souvenir très précis que sur le cas Tariq Ramadan, qui était un personnage que Franz aimait bien inviter, il y avait eu une intervention directe de la direction.
Frédéric Taddeï, comment se fait-il que vous n'ayez jamais connu
Tariq
ça
Ramadan, et je n'ai jamais eu aucune intervention de la direction.
Parce que vous faisiez moins peur
que je l'invitais moins, peut-être parce que j'invitais moins que Franz-Olivier Gisbert.
Oui, il fait davantage peur que vous, il fait peut-être moins peur. Je vais citer Pierre Lazareff, que vous citez dans l'interview que vous donnez à Causeur. Je trouve ça, alors je la connaissais pas cette formule, moi, qui disait à ses journalistes, Pierre Lazareff, patron de François, acceptez tous les cadeaux et crachez dans la soupe. Est-ce que ça pourrait être pour vous trois, la ligne de conduite qui devrait être celle de tout journaliste?
C'est la réponse que je donne aux journalistes de Causeur qui me demandent si ça me pose un problème d'être payé par le Kremlin. Si tant est que je sois payé en ligne directe par le Kremlin, mais j'aurais dit que je me fichais de savoir par qui j'étais payé du moment que je pouvais faire ce que je voulais. Et deuxièmement, comme le dit Pierre Lazareff, accepter tous les cadeaux et cracher dans la soupe. Oui, je pense qu'il n'y a aucun problème à voyager dans l'avion présidentiel pour un voyage de presse et ensuite dire du mal de la politique du président de la République. Oui, normalement, ça devrait poser aucun problème. En tout cas, moi, ça ne m'en a jamais posé, bien que je n'ai jamais voyagé dans l'avion présidentiel.
Oui, donc vous ne savez pas, parce que peut-être que si vous l'aviez la proximité quand même atténue, on va dire.
Il est arrivé d'avoir en face très près, voire de dîner avec des politiques très importants, et le lendemain, de faire une émission dans laquelle j'avais des invités qui disaient le plus grand mal de leur politique.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, la proximité, qui peut être aussi une proximité à travers, des faveurs qui vous sont accordées n'enlèvent rien, en tout cas, n'est pas censé enlever quoi que ce soit de votre indépendance journalistique, Laetitia Strauss-Bonnard. Ou bien il faut quand même essayer de se tenir à distance.
Ça ne devrait pas, mais c'est compliqué, parce que dans la réalité, où est-ce que vous mettez vraiment la limite? Mais je pense que...
Imaginons, François Pinault vous invite dans sa villa, enfin dans une de ses villas en week-end.
Mais c'est déjà fait, mon ami. Ça m'a...
Peut-être pas pour Laetitia, je ne sais pas.
C'est pas mon métier, en tout cas. Enfin, ça dépend de si c'est pour parler d'idées et de choses intéressantes. Mais si j'ai quand même l'impression que ce sont pas des choses qui se produisent souvent. Après, vous avez raison, le coup de l'actionnaire n'est pas un mythe. Et je citais le cas de Peter Bourne tout à l'heure parce que c'était vraiment choquant. Mais j'ai l'impression quand même que ça dévalorise beaucoup les actionnaires quand ces affaires éclatent. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus envie d'acheter leur journal. Moi, je me suis désabonnée du Daily Telegraph quand j'ai appris cette histoire. Parce que j'ai trouvé ça incroyable qu'ils ne laissent pas un des meilleurs journalistes britanniques faire son enquête.
Est-ce qu'il y a des journaux français que vous ne lisez plus pour ces raisons-là ?
Il y a une chaîne qui s'appelle Canal+, qui a beaucoup souffert à un moment de la guerre qui a été menée par son propriétaire contre les Guignols, par exemple. Même si les Guignols n'amusaient peut-être plus personne à ce moment-là, peut-être qu'il avait raison, mais il s'y est pris de telle manière qu'il est arrivé à faire des Guignols les victimes expiatoires d'une mainmise politique sur une chaîne de télé soi-disant indépendante. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des erreurs qui se retournent contre vous.
Et j'aurais aussi voulu ajouter un élément sur les conditions de l'indépendance, parce que Audelancelin, vous avez cité trois conditions. L'indépendance vis-à-vis de l'État, vous citiez donc les puissances industrielles et les États étrangers. Moi, j'en ajouterais une quatrième, mais c'est un petit peu latéral. C'est l'indépendance par rapport à soi-même. Parce que je pense qu'un des problèmes aussi auxquels on fait face quand on est journaliste ou essayiste ou penseur, c'est qu'on peut s'enfermer aussi dans ses propres idées. Donc une des premières choses, c'est d'abord, avant de penser à l'indépendance éditoriale, actionnariale, pour moi, en tout cas, c'est de me demander à chaque fois si je suis vraiment indépendante ou est-ce que je n'ai pas pris l'habitude de ne lire que les mêmes choses, de ne parler qu'aux mêmes personnes et de réduire en fait le champ de la diversité possible. Et ce qui nous amène au point que vous évoquiez tout à l'heure, qui était aussi le fait de donner la place à des opinions divergentes dans nos médias. On ne le fait pas seulement pour la vie des médias ou pour la vie du débat, mais on le fait aussi pour faire vivre notre propre réflexion. Parce que sinon, on s'enferme. Et d'ailleurs, il y a un phénomène en psychologie qu'on appelle le biais de sélection, qui consiste en fait à ne retenir que les informations qui vont dans notre sens. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes tous victimes, y compris et peut-être encore plus même les journalistes. Donc je pense qu'il y a une un quatrième pilier de l'indépendance pour moi, qui est celui-là.
Je viens de comprendre pourquoi vous aviez accepté de rejoindre notre club des idées, peut-être aussi pour être confronté, voilà, à d'autres idées que les vôtres. Non, mais je dis ça en plus avec à peine d'ironie. Frédéric Tadiguet, ensuite, dans ce qui attend patiemment.
Je souscris totalement à ce que vient de dire Laetitia. À mon sens, je dis souvent que c'est l'autocensure qui est bien plus terrible dans notre pays que la censure. Et je pense effectivement, j'ai dit récemment qu'un bon journaliste, c'était quelqu'un qui était capable de penser contre ses employeurs, contre son milieu, contre sa famille, contre ses collègues et contre soi-même. Et c'est certainement ce qui est le plus difficile, c'est de penser contre soi-même. Et d'ailleurs, on vous le reproche. C'est pour ça que la plupart des journalistes affichent leurs opinions. Parce que comme ça, ils sont sûrs qu'on les reconnaîtra comme ancrés dans le camp du bien. Moi, n'affichant pas mes opinions, on me reproche, évidemment, on se dit que les miennes doivent être un peu douteuses pour que je refuse de les afficher, vous voyez. Mais c'est ça, les gens ont l'impression que s'ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sont dans la vérité. Mais non.
Dans cela.
Non, mais pour revenir au fond du débat, je ne doute pas de la sincérité de Frédéric Taddeï quand il dit qu'il n'a pas subi de pression, et qu'il a bénéficié au cours de ses aventures médiatiques d'une grande liberté. C'est tout de même un cas extrêmement singulier. C'est tout de même une position extrêmement privilégiée. Et du coup, je pense que tenir ce discours qui ne correspond pas à la situation réelle de la masse des journalistes est dangereux. Parce que, en réalité, le poids actionnarial est colossal sur la ligne des rédactions et que c'est celui, en définitive, qui paye, qui décide. Il y a un proverbe anglais qui dit « There's no such thing as a free lunch ». Et c'est toujours...
Que vous allez nous traduire.
Il n'y a rien de tel qu'un déjeuner gratuit. Et c'est absolument vrai. C'est-à-dire que les médias sont maintenant, la presse écrite notamment, un secteur fortement déficitaire. Pourquoi voulez-vous que ces gens injectent des millions d'euros dans des journaux qui sont de véritables gouffres financiers? Pourquoi, à votre avis?
Mais
pour quelle raison?
Aude Lancelin, souvenez-vous de ce que vous écriviez dans Le Monde Libre. Je crois que je vous l'avais déjà sorti cet extrait quand vous aviez sorti cet ouvrage. On pouvait y lire ceci, donc de votre plume. Hein. « Rien n'oblige au fond le journaliste à devancer les opinions grégaires, à mordre là où il faut, à anticiper les attentes supposées des maîtres d'une rédaction, ni de ceux qui les manœuvrent plus haut encore. Et pourtant, la plupart le font. » Comme un seul homme, sans qu'aucun ordre n'ait été formellement donné. Ça veut bien dire que vous placez aussi la question de la responsabilité individuelle au cœur de la réflexion sur l'indépendance journalistique.
Oui, mais à cet égard, je suis tout à fait d'accord avec la description qui vient d'être faite du phénomène d'autocensure. Mais l'autocensure du journaliste, c'est une anticipation, si vous voulez, c'est une anticipation de la répression, c'est une anticipation de la censure. Donc les deux phénomènes sont tout à fait liés. Et dans l'extrait que vous citez du Monde Libre, la suite dit « l'essentiel est le recrutement des pousses, le recrutement des journalistes, leur formation, l'apprentissage de la servitude en définitive ». Et ça paraît des grands mots, etc., mais c'est exactement ce qui se passe dès l'entrée dans une rédaction.
Vous travaillez avec des journalistes, vous, Frédéric Taddeï, pour préparer vos émissions, et vous les choisissez comment?
Pour leur indépendance d'esprit, leur intelligence, leur curiosité, leur bonne humeur aussi, leur optimisme.
Mais en tout cas, est-ce que cette idée pour vous est vraiment fondamentale, c'est-à-dire de dire vous ne vous interdisez rien en termes de proposition d'invité, parce que j'imagine que c'est comme ça que ça marche.
Oui, je m'interdis ceux qui... En fait, moi, ma déontologie a toujours été la même. Si les livres, les films, les disques sont en vente libre, je peux les inviter. Je ne vais pas être plus sévère que le ministre de l'Intérieur. Vous voyez, je ne suis pas policier, je suis pas... Donc voilà, c'est en vente libre, bon, moi, je peux l'inviter. Et ça a été un peu ça, ma déontologie, toujours. Ça reste la même.
Laetitia Stroche-Bonnard, sur justement cette idée que, même si vous l'avez déjà un petit peu développé tout à l'heure, mais qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à aller peut-être contre votre employeur. Est-ce que c'est même la démarche journalistique doit être aussi d'essayer de tester peut-être les limites de celui qui vous emploie. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut penser le journalisme et son indépendance ?
Oui, alors j'ai du mal à considérer un journaliste comme un employé comme les autres, parce que j'ai travaillé dans d'autres structures et c'est très différent. J'avais beaucoup moins de liberté quand j'ai fait du conseil en ressources humaines, ce que j'ai fait un tout petit peu, qu'en étant journaliste. Donc moi, j'ai jamais eu autant de liberté dans mon travail qu'aujourd'hui.
En même temps, si vous signez un contrat, il y a un lien de subordination, comme dans tous les contrats de travail. Donc...
Bien sûr, mais quand même, vous n'avez pas les mêmes horaires, vous n'avez pas cette espèce de surveillance que vous avez quand vous êtes employé dans d'autres secteurs. Donc c'est aussi un privilège. Et d'ailleurs, les journalistes adorent leur métier. Et c'est pas pour rien. Ensuite, bien sûr, mais si on ne va pas contre, ou si on ne teste pas les limites, à quoi on sert ? Si on est tous d'accord de toute façon dans une rédaction, ça n'a absolument aucun intérêt.
Et tester les limites, par exemple, au point, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait consister en quoi ?
Peut-être que vous me direz que c'est pas une limite, mais moi, il y a un livre qui vient de sortir en France, qui s'appelle les jobs à la con. Je sais pas si vous avez vu ce que c'est les bullshit jobs de David Graeber, qui est un anthropologue américain qui vit à Londres, qui est un anarchiste,
dette, notamment,
qui a participé au mouvement Occupy. Et son livre est passionnant parce qu'il décrit en fait ce qu'il appelle les jobs à la con. Ce sont des métiers d'encadrement, souvent très haut placés, très bien payés, mais en fait, vous ne faites rien. C'est-à-dire que la teneur de votre travail compte en une heure de temps, et puis le reste du temps, vous n'avez rien à faire. Et pourtant, vous êtes très bien payé, vous êtes project manager, ou je ne sais, consultant en projet IT, ou je ne sais quoi. Il a écrit un article en 2013 dans un journal qui s'appelle Strike, qui a eu un succès phénoménal, et il en a fait un livre. A priori, j'ai rien de commun idéologiquement avec cet auteur et sponsor. Moi, la première chose que j'ai eu envie de faire quand j'ai appris que son livre sortait en français, c'était de l'interviewer. C'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Parce que j'ai envie de lui dire, voilà, là, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Mais l'interprétation que vous en donnez, je ne la partage pas. Donc, expliquez-moi. Voilà, c'est lui que je vais aller titiller déjà. Mais a priori, Le Point, peut-être, n'avait pas pensé publier ça immédiatement.
Donc, si jamais l'interview n'est pas publiée, on comprendra que vous avez dépassé les limites. Les limites pour vous, Danselin, pour le média, ça pourrait être quoi ? Alors, vous, maintenant, vous présidez le média, alors c'est vous peut-être
Je souris parce que j'écoutais l'exemple.
C'est peut-être vous qui l'avez posé, maintenant, les limites.
Laetitia Au Point, c'est vrai que David Graeber est quand même pas un gauchiste très radical, quoi. Donc c'est amusant, vous voyez,
j'ai pas dit ça,
que même un social-démocrate un peu structuré passe pour transgressif au point.
En soi, si se définirait
mais
comme
lui se considère comme un anarchiste.
C'est pas un communiste. Donc d'une certaine façon, tout est dit, vous voyez.
Vous êtes sévère quand même, parce que lui-même a participé à Occupy. Ouais. C'est un anarchiste.
Bah, voilà, Occupy Wall Street a quand même été un naufrage.
Vous pouvez avoir des réserves, mais c'est quand même une bonne chose qu'on le fasse, il me semble, pour la vie du débat.
C'est une bonne chose.
N'en profitez pas pour ne pas répondre à ma question, Aude Lancelin.
Non, je ne vous oublie pas. écoutez, chez nous, mais tout journal a une ligne politique, idéologique, forcément. Bon, je dirais que c'est la limite chez nous, c'est l'incitation à la haine raciale sous toutes ses formes, incontestablement. C'est-à-dire que, à cet égard, on n'a pas encore tranché la question de savoir si des membres du Front National viendraient ou pas sur l'antenne. Jusqu'ici, il n'y en a jamais eu un seul. Voilà. Donc, cette question, elle a circulé un petit peu dans la rédaction. Bon, elle n'est pas tranchée, à vrai dire, encore.
Frédéric Taddeo, on est quasiment au terme de l'émission. On va faire comme on a fait au tout début. On va reparler un petit peu de ce nouveau programme que vous allez proposer. Est-ce que vous avez déjà une idée de par quoi vous allez commencer ?
Pas du tout, pas la moindre idée. Vous savez, c'est l'avantage avec les quotidiennes, c'est que vous les faites en même temps que vous les faites. Vous les vissez au fur et à mesure. Donc non, j'ai pas la moindre idée pour l'instant. Ce sera un talk show. Ça va s'appeler Interdit d'interdire. C'est déjà tout un programme. Oui.
Et la rentrée du média ? Aude Lancelin.
La rentrée du média, je voulais dire
en termes de programmation, ouais.
Ah bah, écoutez, on démarre avec un rendez-vous d'info quotidien à 20h, hein, à partir du 17 septembre, et puis beaucoup d'émissions de talk, la création d'une émission d'histoire, la reprise du Monde Libre, de Dans la gueule du loup, et des programmes voilà, qui ont été plébiscités l'année dernière.
Et pour Le Point, donc c'est chaque semaine, et notamment une interview à venir de l'anthropologue David Graeber. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé
merci.
À cette
merci.
Discussion. Merci à l'équipe du Grand, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Ledoux, Antoine Tricot et Guillaume Laguigné, émission réalisée par Alexandre Fougeron depuis le bar du Bel Air, avec à la prise de son Philippe Marcher, Philippe Thibault, Laurent Binder et Valentin Azan.